Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 275e numéro de notre podcast, 275 numéro anniversaire. Dans ce numéro, nous allons... Il n'y aura pas d'augmentation de prix non plus, donc c'est cool. En tout cas, pour ce numéro, nous allons vous proposer des chroniques comics, des chroniques jeux vidéo et peut-être d'autres choses. Qui sait où cette émission nous mènera. Je suis Mathieu, vous allez écouter le 275e numéro de Stories. Qui dit podcast dit une nouvelle fois Bino avec Anthony.
C'est encore moi.
Voilà. On espère que ça se passera mieux que le premier enregistrement du 275. Et puis on va croiser les doigts pour la connexion. Allez, on est parti avec le gros dossier de ce début de mois qui a fait que le monde est complètement entré en suspension pendant l'espace de 24 heures, voire même de tout un week-end où personne ne parlait d'autre chose.
Je suis rentré en phase de suspension.
Ah oui, oh bah le monde aussi. Hein. Je peux te dire que moi qui suis très adepte d'Instagram et de choses comme ça, voilà, tout était autour de Spider-Man ce week-end. Sortie oblige d'un tout petit jeu vidéo que tu as testé dont tu vas nous parler un peu.
Oui, tout à fait. Donc Spider-Man, Marvel's Spider-Man sur PS4, donc PS4, PS4 Slim et évidemment PS4 Pro. Donc je vais tout de suite faire un point techno. Donc moi pour ma part, je vais vous parler de la version PS4 Pro et je joue sur un écran Ultra HD. Donc c'est très beau et j'y reviendrai. Donc Spider-Man PS4, il est important. Donc c'est développé par Insomniac Games, donc qui sont les créateurs de Ratchet & Clank et de Sunset Overdrive, donc qui était aussi un jeu complètement timbré en monde ouvert. Donc il y a effectivement des similitudes avec ce Spider-Man. Bon, ça s'arrête là. Et c'est surtout produit par alors je sais pas si le terme produit est le bon, mais en tout cas on va dire que ça a été financé par sous la houlette de Sony. Donc Spider-Man PS4, il est intéressant déjà pour le constructeur parce que c'est une exclusivité. Donc ça veut dire que ça ne sortira effectivement que sur le système PlayStation. Et il s'inscrit effectivement dans ce mouvement qu'a Sony de capitaliser sur des exclusivités très fortes, très qualitatives, très soignées. Donc avant lui, on a eu Horizon, God of War, Detroit, Become Human, donc des jeux vraiment attendus et qui, on va le voir, ne déçoivent pas. Et donc petit point business, c'est une réussite pour Sony puisqu'en fait c'est une des meilleures ventes de l'année, si ce n'est pour l'instant la meilleure vente de l'année, ce Spider-Man PS4
en seulement quelques jours du coup.
En seulement quelques jours. Donc alors après Spider-Man, donc là ça sort bon par le plus grand des hasards sur console de jeu, mais Spider-Man ça regroupe à la fois donc pour ce cas-là des joueurs, mais ça attire des spectateurs et ça attire évidemment des lecteurs. Donc on a toute une communauté complètement qui vient d'horizons complètement différents qui se réunissent aujourd'hui autour d'un même personnage pour s'amuser tout simplement. Donc Spider-Man PS4, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. Alors c'est pas parfait, mais c'est très bien. Je vais essayer de rapidement dire pourquoi. Donc moi, j'ai pas fini le jeu, donc ce sera pas un test. Je pourrais pas donner mon avis sur toute la quête principale, mais j'en suis à peu près à 60 et quelques pourcents. Et j'ai toujours pas fini le deuxième acte. Donc 60%, ça regroupe donc la trame principale, mais aussi une multitude d'activités annexes. Donc ça va de la quête annexe relativement écrite, j'y reviendrai, au collectible ou au système de défi. Donc voilà, 60%. Donc j'ai aucune idée de la manière dont finit le jeu. Et voilà, c'est plus un avis qu'un test. Donc le jeu, déjà, on va parler graphisme, est vraiment assez impressionnant. Alors je pense que c'est globalement le cas sur les trois plateformes, mais là, le fait est que sur PS4 Pro, avec l'écran qui va bien, c'est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Que ce soit les effets de lumière qui éclipsent entre les buildings ou les quartiers un peu moins iconiques, que ce soit les reflets sur l'eau, les effets de particules sur les fumées lorsqu'on est accroché à des toits, voilà, que ce soit le maillage et les fibres du tissu du costume, Il y a aussi tout un soin sur la modélisation des personnages. Alors, je trouve qu'au niveau synchronisation labiale, c'est pas parfait, mais en termes de détails, c'est vraiment impressionnant, que ce soit le grain de la peau, que ce soit certaines aspérités comme des coupures, des contusions, de la boue, de la poussière, même de la sueur. Il y a vraiment un putain de travail graphique, je trouve. Il y a aussi un énorme souci du détail, parce que quand on fait un jeu Spider-Man, bon, on se dit que l'objectif premier, alors, c'est de réussir tout le système de déplacement. Je vais y revenir, bon, là, c'est complètement réussi, mais c'est surtout d'essayer de crédibiliser tout l'espace aérien. Et à la limite, l'environnement terrestre et les rues, on peut se dire que dans des soucis de délai de production, ça peut passer à la trame. Je fais juste un point, est-ce qu'on m'entend toujours?
Oui, pas de souci.
Okay. Et là, putain, tu sens que les types ont un budget. Alors, j'ai aucune idée du budget, mais je pense qu'ils ont eu, alors pas carte blanche, mais une somme absolument dantesque. Et le temps, surtout le temps pour le faire, parce que ça regorge de détails, mais de détails qui, en soi, ne servent en rien au gameplay ou au plaisir de jeu, mais qui, en termes de game design et de souci du détail et de cohérence de l'univers, c'est magistral, quoi. C'est-à-dire que on peut arrêter différentes crimes qui sont générés aléatoirement dans la ville. Donc, ce qui s'institue sur l'île de Manhattan. Et par exemple, les différentes boutiques. Alors, je prends n'importe quoi qui va être, un bureau de banque. Et ben, tu vas avoir des tickets sur l'entrée spécifiant que la carte bleue, alors, je dis n'importe quoi, mais n'est pas acceptée ou que on peut faire tel ou tel retrait. Enfin, il y a un souci pour rendre le tout, alors on va dire plus ou moins réaliste, qui est véritablement impressionnant. On a par exemple les journaux qui vont être collés sur les murs, qui vont s'actualiser en fonction de la quête principale, en fonction de ce qui va se passer, bah, les journaux vont s'actualiser. De la même manière, alors on va jouer à la fois Peter Parker et Spider-Man, ça c'est pas un spoil. De la même manière, quand on va démarrer une conversation au téléphone, qu'on va finalement basculer sur un événement complètement aléatoire, le personnage va revenir sur la conversation téléphonique en s'excusant lorsque la personne va décrocher. Enfin, vraiment, c'est vraiment vraiment soigné à ce niveau-là. Concernant ce qu'on y fait, alors il y a une quête principale que l'on suit. Alors je vais faire l'aparté à ce moment-là qui est pour l'instant. Alors, étant lecteur de Spider-Man depuis pas mal d'années, puisqu'en fait, j'ai démarré avec l'Estrange de mon père, ce héros-là notamment, et ayant plongé vraiment dedans dans la période d'Anslot, je dois dire que je suis globalement servi, puisque pour l'instant, j'en suis donc, j'estime être à peu près au milieu du deuxième acte, en gros, ça adapte Brand New Day. Donc, on se retrouve à évincer Fisk et son empire criminel, qui va être renversé donc à la fois par Spider-Man, mais en sous-main, c'est les démons et Mister Négatif qui est derrière tout ça. Norman Osborn y est mêlé, bien évidemment. Ouais. Donc, on a toute cette effervescence qu'avait eu Dan Slott à l'époque de super-vilain. Et je trouve que le meilleur exemple comics qu'on a, c'était les Freeze de Djurjevic. Ces frises gigantesques qui regroupent en fait toute la rock galerie de Spider-Man, bah c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah il y a pas mal de super vilains, alors évidemment pas assez puisqu'il y en a jamais assez, mais c'est vraiment vraiment super cool à suivre. Même si étant lecteur de comics, je pense avoir deviné certaines ficelles que les scénaristes pensent se garder en main. Alors j'espère vraiment être surpris. Ça paraît se diriger dans la direction que j'ai en tête. Alors, pour faire simple, ce personnage qui apparaît en tout début de jeu, donc en fait, attention spoiler pour ceux qui veulent pas, Peter Parker dans cet univers-là est donc à 23 ans, est diplômé. Donc, on oublie complètement le Spider-Man Homecoming, par exemple, qu'on a pu avoir récemment. Donc, on est sur quelque chose entre Parker Industries et Straczynski en termes de maturité du personnage. Et en fait, il travaille pour Octavius Industries. Le clin d'œil est assez évident. Puisque dans cet univers-là, Otto Octavius est en fait un génie scientifique subventionné par la ville qui galère un peu et qui essaye en fait qui travaille sur des prothèses. Des prothèses pour notamment les soldats qui reviennent et qui sont amputés. Et la première image qu'on voit de Docteur, alors qui n'est pas Docteur Octopus, mais qui est donc Otto Octavius, il est ceinturé donc avec tout un espèce de baudrier électronique avec quatre câbles qui le rejoignent dans son dos. Bon, c'est assez évident de vers quoi va le jeu à la fin. Surtout qu'il y a toute une construction sur l'arrivée, alors cette fois du vilain Docteur Octopus, qui est vraiment super cool. Et on sent que le personnage chavire de cinématique en cinématique et de quête en quête. C'est vraiment super cool à suivre. Mais à part ça, je trouve que le déroulé de la quête principale n'a pas encore décollé et n'a pas encore eu ce moment qui va faire que. On est sur des rails, alors des rails qui vont à toute berzingue, certes, mais on n'a pas eu d'effet looping.
Ça fait très intro.
C'est ça. En fait, ça fait très premier arc, 6 premiers numéros, Dan Slott, je te présente mon idée, je t'introduis Mister Négative, et je vais sans doute finir sur un dernier numéro avec les Sinister Six. En gros, je pense que ça va être ça.
Ok.
Par contre, c'est super bien fait. Et c'est tellement bien fait qu'en fait, ils arrivent à rendre le tout mature. Donc, deuxième aparté, ce Spider-Man est immédiatement comparé à Batman Arkham Knight, qui sont en fait deux jeux en termes de mécanique globalement similaires, héros très connus, plongés dans un monde ouvert, donc l'un Gotham, l'autre Manhattan, avec des systèmes de quêtes annexes, même si de ce point de vue-là, je trouve Batman Arkham Knight géré beaucoup mieux, sachant que Batman Arkham Knight est le troisième et dernier de la trilogie, donc Rocksteady, qui est le studio derrière ce Batman, avait eu le temps de maturer la recette. Donc ça se voyait de ce point de vue-là. Et Spider-Man, en fait, je pense, est effectivement une introduction vers 2, 3, 4 épisodes, on verra bien. Mais il y a quelques points, notamment peut-être cette quête principale qui ronronne pour l'instant, qui a du mal à démarrer, qui est très intéressante, bien mise en scène, mais qui a du mal à démarrer. Sachant que on est dans cet univers-là plus ou moins en couple avec Mary Jane, donc pas de Gwen Stacy pour l'instant. Mmh. Et ce sera le deuxième point qui est vachement pertinent, puisque les personnages sont pas traités comme deux ados ou deux mannequins qui se cherchent, comme on a pu le voir. Alors même si actuellement Peter Parker est plus du tout en couple ni en lien avec Mary Jane, mais plus dans les années 80 voire 90 en termes de comics. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux écrit, en fait, c'est moderne. Tu sens qu'ils sont amis, mais plus que ça, mais ils sont séparés. Donc c'est vraiment pas mal écrit du tout de ce point de vue-là. Et je retiendrai aussi une autre scène d'un attentat avec les démons qui est qui est vraiment vraiment rentre dedans, qui est explicite au plus haut point et qui marque vraiment la séparation avec ce qu'on peut voir dans le média comics, qui est un peu plus sage de ce point de vue-là. Là non, c'est, alors certes c'est deux jours, c'est coloré, il n'y a pas de gargouille, il n'y a pas de Batman, c'est Spider-Man qui fait des blagues, mais quand il faut resserrer les enjeux, ça le fait très bien. Et cette scène d'attentat, alors qui arrive je dirais à 40% de la quête principale, est vraiment vraiment impressionnante. Et là où tu avais une certaine légèreté jusqu'à présent, bon, ça te gomme tout ça et ça te dit, bon, on sait que le personnage blague, mais on sait aussi être sérieux et mature quand il faut. Donc, bon point. Autre point sur lequel on peut revenir, c'est tout ce qui est activité annexe. Donc là, de ce point de vue-là, malheureusement, c'est là aussi pas des plus inventifs, puisque Insomniac va chercher, donc on l'a dit, du côté d'Arkham Knight, évidemment, mais aussi du côté d'Ubisoft, puisqu'on retrouve ce système de tour où en fait les joueurs le connaissaient bien, puisque ça avait disparu, mais bizarrement ça revient ici, où en fait pour débloquer et voir apparaître sur la map, donc la carte, toutes les points d'intérêt, en fait il faut désactiver des tours, et c'était quelque chose qui avait été largement décrié chez Ubisoft, et qui revient ici, on ne sait pas pourquoi, sachant qu'ils auraient pu trouver autre chose en fait. Donc ça c'est un peu dommage. Pareil en termes de quête annexe, ce qu'on va retrouver de plus écrit, de plus scénarisé, reste quand même globalement limité, je trouve, quand on compare là aussi ce qu'a fait Arkham Knight, et notamment dans son DLC Les Saisons de l'Infamie, pour ceux qui connaissent, où là c'était quand même vraiment, enfin il y avait du travail derrière à l'écriture. Là on sent que c'est plus pour compléter et pour essayer de varier un peu ce qu'on y a à faire dans ce monde, et on va retrouver tout un ensemble de collectibles et de mini quêtes FedEx à objectifs à compléter. Donc dit comme ça, le jeu paraît pas génial, ça paraît vraiment réutiliser des recettes sans les réinventer aucunement, c'est clair. Par contre le jeu a pour lui donc cette quête principale qui ronronne mais qui est cool, qui est vraiment cool à suivre. Il a pour lui d'avoir un système de gameplay simple, efficace, qu'on prend en main rapidement, et un système de déplacement dantesque, vraiment dantesque. On a vraiment cette sensation de vertige lorsqu'on... Attention, clin d'œil. Lorsque l'on saute de la tour Avengers, parce que oui, il y a la tour Avengers dans ce jeu. Alors, est-ce que ça laisse présager d'un éventuel crossover par la suite? Ce serait génial et à la fois inédit d'avoir ce que fait en fait le MCU au ciné calqué dans l'industrie du jeu vidéo. Donc à voir, pourquoi pas. Quand on voit les résultats financiers que fait Spider-Man, c'est pas du tout exclu. Et quand on sait qu'un jeu Avengers est développé par Square Enix, c'est pas non plus exclu, un partenariat. Donc voilà, un système de déplacement aux petits oignons avec une sensation de vertige absolument impressionnante. Un système de combat là aussi efficace qui reprend le free flow de Batman Arkham Knight basé sur du attaque contre attaque, quelques combos pour étoffer. Et en fait, là où le jeu est très fort, c'est qu'il arrive à mixer tout ça dans une fluidité rarement vue, parce que étonnamment, la map est pas très grande, détaillée, riche, mais pas immense. Ce qui fait qu'on navigue pas mal d'un point A à un point B entre deux quêtes principales, mais tu es constamment happé par des points qui vont se apparaître aléatoirement. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui fuit, un braquage, un règlement de compte, un défi lancé par un personnage dont je vais taire le nom, une station de recherche que tu dois compléter, le docteur Octavius qui t'appelle pour faire un mini-jeu dans son labo. Donc en fait, tu es dit comme ça, c'est effectivement répétitif, mais comme le jeu t'oblige pas forcément, mais t'incite et te motive à faire un truc, puis un autre, puis faire un bout de quête principale, puis repartir vers deux objectifs annexes, en fait, tu t'ennuies jamais. C'est des éléments éculés qu'on n'avait pas forcément envie de voir en fait dans un jeu de 2018, mais ça le mélange tellement bien avec la trame principale que ça en devient, mais ça se camoufle en fait. Je trouve que toutes les erreurs du jeu se camouflent dans une mixité absolument magistrale, une réalisation graphique au sommet et un système de gameplay ultra fluide, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y aura une suite, même sans avoir fini la quête principale, c'est sûr qu'il y aura une suite.
Bon,
Parce
ne serait-ce que
que
par les recettes que le jeu est en train de
c'est
faire
ça,
et le
c'est ça.
buzz
C'est
absolu
ça.
que ça fait, forcément il y aura quelque chose
Il y
derrière.
aura une suite, alors on peut tout imaginer, voilà, ce crossover avec les Avengers. L'arrivée d'un autre Spider-Man dont je vais te taire le nom, mais bon, j'imagine que quand on regarde un peu l'historique
Il serait un peu
Spider-Man
plus
Comics,
hispanique, peut-être.
peut-être bien. Pourquoi pas sur un autre lieu, une autre map. Enfin, il y a pas mal de possibilités à faire. Et le studio va devoir se creuser la tête pour améliorer encore plus la formule parce qu'elle est déjà assez aboutie. Il y a quand même des choses qu'on peut améliorer, mais en l'état, c'est quand même super. C'est vraiment super, quoi. C'est le jeu ultime pour tous les fans de Spider-Man, qu'on soit. Alors, si on est pur gamer, je sais pas si le jeu révolutionne tant que ça la formule, voire même pas du tout. Donc, effectivement, si on n'a aucun intérêt dans le personnage de Spider-Man, je sais pas si au-delà de jouer un jeu d'aventure, action-aventure très efficace, je sais pas s'il y a une plus-value, une valeur ajoutée. Par contre, si on est ou spectateur et qu'on a apprécié les différentes itérations du personnage, ou évidemment lecteur, et je pense plus particulièrement au lecteur, c'est assez génial parce qu'il y a des références partout. Enfin, on va parler de Morgan Michaels, on va parler d'une mysterious menace sur la ville, on te parle de Alias Investigation, on te parle d'un avocat aveugle dans Hell's Kitchen qui va aider les plus démunis, on te parle de. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs qui pop comme ça, des jeux de mots, des trucs. Enfin, bon, c'est assez complet et c'est vraiment grisant à jouer. Donc pour moi, c'est un carton plein pour l'instant. À voir si la quête principale décolle vraiment, parce qu'au niveau des quêtes annexes, je pense qu'on est sur un système qui va pas évoluer. Mais si cette trame arrive à décoller pour atteindre certains sommets, qui, au vu de l'introduction avec Otto Octavius, devrait se résoudre, je pense, dans un combat de boss final avec le grand vilain. Malgré ça, je pense qu'on tiendra quand même un jeu assez immanquable de 2018 pour les possesseurs de PS4, quoi.
Ok, et eh ben à suivre du coup.
De toute manière, pour terminer, voilà, très rapidement, je ferai. Voilà, là c'était un avis à chaud, parce que j'ai le jeu que depuis 3-4 jours. Je ferai alors un ou je sais pas encore la forme que ça va avoir, mais un papier dessus pour essayer de faire le bilan un peu de
Ok,
tout
et
ça.
eh bien le rendez-vous est pris. On va revenir à des supports un peu plus conventionnels. On va parler de papier maintenant. Alors on a un peu l'embarras du choix. Moi, il y a un sujet brûlant, hein, qui m'intéresse, hein, particulièrement parmi la liste de choses que tu proposais. Tu en as parlé à demi-mot parmi les clins d'œil dans le jeu Spidey. On va parler d'un avocat aveugle qui sévit du côté de Hell's Kitchen, parce que là, on est en train de vivre quand même quelque chose.
C'est dur.
Quelque chose de très particulier avec Daredevil,
C'est très dur.
Daredevil par Charles Soule. Je pense qu'il est temps qu'on en parle un peu, quoi.
Ouais. Alors, je vais essayer de pas m'étendre, même si c'est très dur, puisqu'on a quand même pas mal de trucs. Enfin, j'aimerais traiter pas mal de trucs derrière, mais en tout cas, donc moi, Daredevil Partial Soul, j'avais lu le tome 1, je l'avais d'ailleurs chroniqué sur le site, c'était pas mal. C'était vraiment, il y avait une recherche graphique entre Miller, enfin, qui tournait autour de Miller, c'était assez intéressant. Le scénario de ce premier tome était bof plus. C'était agréable à lire, sans être révolutionnaire. C'est sûr qu'on n'était pas au niveau de ce qu'il y avait eu et ce qu'il y a déjà eu sur Daredevil. Donc, j'ai jamais osé prendre la suite, donc à savoir les tomes 2, 3 et 4. Le tome 5 est sorti là il y a quelques semaines. Spoiler d'avance, je ne l'ai pas acheté. Donc, j'ai quand même rattrapé mon retard sur les tomes 2, 3 et 4 que j'ai lus d'affilée. Quelle souffrance! Quelle souffrance gigantesque! Même si Charles Soule a le don de balancer des idées. Il a des idées, ce gars-là, mais c'est vraiment que des phrases sur des post-it. Parce que, en fait, le tome 2, alors très rapidement, c'est une compilation alors de différents annuels qui sont mauvais. J'ai aucun souvenir de ça, en fait. Et de 2-3 numéros qui tournent autour du retour d'Electra, alors qui revient contrôlé par je sais plus qui pour faire je sais plus quoi. On nous soumet l'idée d'une fille qu'aurait pu avoir Matt Murdock et Elektra, qui est une bonne idée, qui est vraiment une bonne idée, parce que les personnages ont un passif. Et quand on sait ce que la série Daredevil End of Days avait su faire avec toute la parentalité absente, en fait, de Daredevil, on se dit que reprendre cette idée-là dans une série en continu, pas dans une mini-série, c'était très intéressant. Bon, en fait, sauf que, Elektra nous dit dans le deuxième numéro, puisque je crois que ça dure un numéro, non, en fait, j'étais contrôlé par un type et c'était un mensonge. D'accord? Ok. C'est dans ce tome-là, d'ailleurs, qui nous introduit la mallette dont on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans et qui va revenir à la fin du tome 4. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est d'ailleurs l'un des seuls points intéressants puisque c'est une intrigue, une sous-intrigue qui se développe, qui apparemment se développe en long cours. Donc, ce sera peut-être mon seul argument pour revenir sur le tome 5. Donc, tome 2, l'un des pires tomes que j'ai pu lire et sur le personnage et de l'année, très honnêtement, parce que graphiquement, c'est pas très beau non plus. Le tome 3 voit le retour de Ron Garney, donc déjà graphiquement, c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus atypique. Bon, malheureusement, pour être tout à fait honnête, c'est bien meilleur que le tome 2, puisqu'on retrouve un arc entier. Donc, il y a un inhumain qui est dans la place, on sait plus trop pourquoi. En fait, son trip, c'est d'arracher les yeux des gens pour en faire des œuvres d'art avec leur sang. Bon, c'est gritty, sans trop d'utilité. Par contre, ça a le bon côté de modifier drastiquement la relation qu'entretient Daredevil et Blindspot. Rien que pour ça, c'était quand même, on va dire, à lire, si on peut dire. Et le tome 4, c'était le retour de Purple Man dans un trip de technicien où le gars récupère ses enfants. Donc ses enfants étaient introduits dans le run de Mark Waid. Donc c'était des enfants qu'il a vus avec des femmes qu'il contrôlait, bon, qu'il violait et qui malheureusement était enceinte. Et donc il avait eu toute une progéniture comme ça d'avortons phéromonaux, on va dire. C'était une bonne idée, enfin c'était une idée très glauque, mais une bonne idée néanmoins, sauf que là Charles Soule en fait, il va faire de ses enfants un réceptacle de booster pour les pouvoirs du Purple Man. C'est complètement idiot, ça n'a pas de sens et ça n'a pas, en fait, pas d'intérêt, vraiment ça n'a aucun intérêt, sachant qu'à côté de ça il introduit un espèce de prêtre de Saint-Dumas made in Daredevil, un espèce de catcheur, mais ça n'a pas de sens, qui est une sorte de sacro-saint d'un ordre de chevalier qui date du Moyen-Âge. Enfin, j'ai même plus de mots pour critiquer ça, et la série part dans une direction, retrouve une direction un peu plus urbaine avec cette histoire de mallette et du plus grand plan, pas de Daredevil, mais de Matt Murdock. Ça quand même me donne envie d'aller lire le tome 5, mais si on revient au délire de prêtre chevalier, c'est mort, quoi.
Alors moi j'ai la réponse, puisque je suis à jour sur Daredevil en VO.
Tu peux y aller parce que
je lis Daredevil de Charles Soule. Effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis que le mec a des idées, mais alors par contre, il devrait s'en tenir à donner ses idées à quelqu'un et laisser ce quelqu'un écrire, parce que c'est une cata totale, quoi. On va avoir un nouveau maire à New York. Dans le prochain tome à sortir en VF, le tome de l'ère Marvel Legacy. Idée super intéressante de voir ce personnage en mer. Idée encore plus intéressante de voir qui il va choisir comme deputy, enfin comme adjoint, je sais pas comment je vais dire en français, parce que voilà, on va avoir une grosse attaque de la main sur la ville, etc., qui va mettre hors service ce fameux maire mystère. Je veux pas te spoiler l'identité pour les lecteurs VF. Et voilà, et du coup, on va se retrouver avec un nouveau maire par intérim encore plus improbable. Et ça, c'est ça sur le papier, c'est hyper vendeur. Mais alors, par contre, dans l'exécution, c'est une catastrophe totale. C'est je te donne des bonnes idées et je te montre exactement comment faut faire pour les saborder, quoi. C'est terrible. Et alors, le prêtre, moi, j'ai rigolé quand tu m'as parlé de ce prêtre parce que j'ai pas lu le début du run en VO ni en VF. Quand tu m'as parlé de ce prêtre, ça m'a rappelé, hein, numéro 604 ou 605, je ne sais plus, donc qui arrivera dans deux tomes en VF. Donc il avait déjà été introduit avant, ce fameux
prêtre. Il a été introduit ouais, dans le tome 2, dans le tome 3 ou 4, je ne sais plus tellement, mais il est introduit en fait pendant que Matt Murdock va au confessionnal et donc qui se confie à ce gars-là. Sauf que là où tu pourrais voir ces moments de à l'église, plus ou moins comme des pauses et des réflexions sur le statut d'Arbeville, le statut de Vigilante. Bon, là, pour le coup, ça aurait été classique, mais si c'est bien écrit, moi, je suis preneur hein, de ces moments-là un peu plus orienté et moins action. Mais sauf que là, il en fait un... Je sais même pas ce qu'il fait, quoi. C'est nul, c'est vraiment nul, quoi.
Concrètement, tu n'aimes pas trop, du coup, un prêtre chevalier?
Bah, j'ai rien contre Azrael. Je le trouve
Est-ce que tu aimerais alors un prêtre chevalier, mais avec plein d'autres prêtres chevaliers autour?
Pas tellement.
Qui viendraient aider Daredevil. Bon. Et est-ce que s'ils avaient des jetpacks, t'aimerais mieux?
Encore une fois, dans l'univers de Warhammer, pourquoi pas? Mais avec Daredevil, non, pas tellement.
Ah, bah dommage, tu vas pas aimer alors.
Ah, cool.
Parce que du coup, oui, l'épisode cultissime. Alors celui-là, tout le monde en a parlé parmi ceux qui lisent en VO, etc., dans les reviews, dans les trucs. Voilà, cet épisode avec le fameux prêtre en jetpack. Alors ça, vraiment, c'est.
On va reparler des jetpacks.
C'est grandiose. Blind Spot. Écoute, je savais pas que la relation avait été. Si, enfin, il y avait des sous-entendus comme quoi la relation avait été drastiquement changée. Bon, bah, ok. Bon, bah, pour quel impact
bah, spoiler, avez... le mec. Bon, alors là aussi, c'est une bonne idée, mais à la fois une pas si subtile que
ça. Il a dû partir à un moment, j'imagine, puisqu'il revient. Donc.
Le mec se fait crever les yeux, en fait. Le tome 3 se finit comme ça. Il se fait crever les yeux par l'inhumain. Donc c'est très choquant puisque c'est tu tournes une page pof ça apparaît comme ça.
Oh, c'est de l'histoire ancienne.
En plus, okay. En résonance avec le personnage de Matt Murdock, ça fait sens. Oui. Mais c'est tout quoi.
D'accord.
Ça va pas plus tard.
Enfin voilà, c'est un n'importe quoi total. Vraiment hein, le symptôme de Daredevil en cheval en plein milieu de New York.
Bah tu me diras, ça a bien marché sur Batman. Hein.
Ouais, mais là ça passe pas. Là ça marche pas. C'est pas organique pour dessous. C'est amené n'importe comment. Des résolutions, c'est ultra bâclé. Vraiment, on est dans du what the fuck. Donc je sais pas si le but de Charles Soule c'est de faire un run de qualité. Bah si c'est le cas, c'est raté. Ou si c'est juste de faire un run qui marque parce qu'il aura été en total décalage. Et voilà. Enfin ce mec là, je comprends pas. Quoi. Je comprends pas son projet. Je comprends pas le concept de son run. J'en arrive à lire.
Il serait temps de changer.
Ouais, clairement. Et j'en arrive à lire Daredevil presque avec un côté malsain, quoi, pour voir mais qu'est-ce qu'il va encore nous faire dans ce numéro, quoi.
Parce que Daredevil, c'est l'un des rares personnages qui, depuis 20 piges, en fait, n'a pas eu de mauvais run, quoi. Même le passage d'Andy Deagle avait ses forces, quoi.
La série était en cours. Maintenant, c'est fini, quoi. Clairement, il y a eu un coup d'arrêt. Voilà, je lis ça avec un intérêt un peu malsain de juste voir jusqu'où il va aller dans n'importe quoi et dans la connerie. Mais il y a quand même une grosse partie de moi qui adore ce personnage et qui dit bordel, ils veulent pas nous arrêter ça. Et... Allez-y, faites-le le fresh start de Daredevil, quoi. Faites-le et arrêtez qu'on en arrête, qu'on en finisse avec ça. C'est insupportable. Après, on sait que Donny Cates va reprendre le Marvel Knights à l'occasion du 20e anniversaire du label, avec notamment une mini-série en 6, etc. On peut s'imaginer que ça va être l'occasion de relancer le personnage.
Oh, c'est tellement bien.
Et de relancer les street level caractères, et donc pour Charles Soule de passer la main et de laisser à quelqu'un d'autre. Alors je demande pas forcément Donny Cates, hein, puisque là on en est à un stade où n'importe qui d'autre, voilà quoi, ça me va. Hein.
Bah, pas Cullen Bunn. Hein.
Ouais, bah à la rigueur, tu vois. À la rigueur, je prends. Parce que Cullen Bunn, il fait des trucs en indé en ce moment qui sont très sympas, j'en dirais peut-être deux mots. Mais non, quoi, stop Charles Soule. Autant le côté avocat, etc., c'était génial.
Il en fait rien. Du côté... Le mec est lui-même avocat, Charles Soule, il en fait rien.
Oui, bah justement, il avait super maîtrisé ça avec She-Hulk. Sa série She-Hulk dans le Marvel Now était très très intéressante de ce côté-là. Donc moi, je me disais, ouais, cool, il a fait un truc top avec Jennifer Walters. Et côté avocat, côté judiciaire, etc. C'était vachement intéressant. C'était une très très bonne série. Oh, il prend Daredevil, génial. Ah ouais, bah, si c'est pour en faire ça, mec.
Rendez-nous Mark Wade, hein.
S'il veut raconter des histoires de prêtres équipés de jetpack avec un personnage en cheval qui combat une espèce de monstre de vapeur, je sais pas quoi, toxique, verte, gluante, je sais pas comment, mais il fait un titre indé et il n'emmerde pas avec Daredevil, quoi. Enfin, mais bon. Voilà. On attend que la page se tourne et puis voilà, ça restera un bien mauvais souvenir, tout ça. Parce qu'on en rigole, mais en même temps, j'en oublie quand même pas que je paye 4 balles enfin 4 dollars par numéro pour lire ça, quoi.
Bah ouais. Enfin, pour moi, 13 ou 14 euros le tome, quoi.
Donc voilà quoi. Non, non, c'est dur, c'est dur, 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 dur.
Je vais arrêter de lire cette série, je pense. Je reprendrai quand c'est pas
Il y a
possible.
quelques séries hein, où je me dis je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. Bah, il y en a deux en fait. Il y a celle-là et il y a Nightwing du côté DC. Ouais, mes personnages vraiment que j'aime quoi, dans ces deux
Ah,
univers-là.
Daredevil, ça m'emmerde, hein, parce que.
Daredevil, je le lis parce que c'est Daredevil. Nightwing, je continue à lire parce que c'est Nightwing, parce que Ben Percy sur Nightwing ces derniers mois, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en vais même commencer des singles et à pas les terminer.
Ah là c'est nul, hein. Ça fait quelques numéros, c'est vraiment depuis, enfin moi en VF depuis l'arc où il y avait le Docteur Pig qui était excellent, depuis
Ouais, il y a le retour à Bloodhaven, tout ça, j'ai adoré. Enfin, ça se passait bien pour moi. Les gens avaient commencé à décrocher, mais moi, j'étais toujours dedans et tout. J'aimais bien. Là, depuis quelques temps, là, c'est juste plus possible, quoi. Là, il y a un arc autour de manipulation technologique, machin.
la cover est cool par contre, la
J'ai même
cover de
pas,
Declan Shalvey est pas mal.
j'ai même pas bité le truc, quoi. J'ai rien compris. Enfin, pourquoi? Je lisais le truc et à chaque page qui passait, je disais, mais pourquoi? Pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi? Je comprends pas. C'est Nightwing face à ce genre de truc. Enfin non, ça colle pas. Puis c'est pas bien écrit. Là, la caractérisation du personnage est en train de partir en vrille. Non, ça me convainc pas. Et voilà, je suis à une période à deux doigts de me dire, purée, je vais être obligé d'arrêter et Daredevil et Nightwing parce que juste les scénaristes en font n'importe quoi. Mais j'ai ce petit côté qui me dit, bah c'est deux personnages que j'adore et bah je continue de les lire parce que c'est leur titre, quoi. Et ah là, le fanboyisme, des fois, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout. Mais bon.
Pas bon du tout.
Est-ce qu'on reste dans l'excellence? Oui, on va rester dans l'excellence. Allez, parle-nous de la guerre des blagues et des énigmes. J'adore ce titre.
Alors, la guerre des blagues et des énigmes, c'est le dernier arc qui vient de se terminer de Tom King par Batman, sur Batman, Tom King par Batman, pourquoi pas. Donc, Tom King sur Batman, donc qui a démarré au numéro 24 et qui finit donc ce mois-ci au numéro 32. Alors, on va évacuer cette question tout de suite. Graphiquement, c'est splendide, c'est vraiment splendide. C'est alors dessiné en duo par Michael Ranin, qui en fait va s'occuper de la partie centrale, donc tout le déroulé de la guerre, de l'affrontement, et Kleiman qui va lui s'attacher à développer, alors avec une certaine profondeur, le personnage de Kite-Man, Charles Brown. Je crois, j'ai un doute. Bon, on va dire Kateman. Parce qu'on va se rendre compte que ça va être un ressort scénaristique, notamment sur la fin. Donc, la guerre des blagues et des très mauvaises blagues, c'est en fait Batman, après sa demande en mariage à Catwoman, va lui raconter sur leur couche, en fait, l'une de ses aventures qui doit se situer à peu près quelques temps après l'année zéro, si j'ai bien compris. Donc déjà c'est un flashback. C'est un flashback de rétro-continuité, puisque le pitch de départ c'est de dire je t'ai demandé en mariage, je te raconte ce moment de ma vie où j'ai merdé. C'était le contrat de base. Batman a merdé durant cet événement, et à l'issue de mon récit, tu me confirmes ou pas si tu m'aimes toujours et si tu veux vivre avec moi. Donc en soi, c'est pas idiot du tout, c'est une introspection assez intéressante.
C'est une manière intéressante d'amener un truc dont on n'avait pas connaissance
C'est ça.
encore,
Et même,
espèce de retcon, mais sans en être une du coup.
j'ai envie de dire totalement rien à foutre, puisque de base, si on ne l'avait pas raconté avant,
Ça n'aurait rien changé.
ça n'aurait rien changé. D'ailleurs, je vais là aussi évacuer tout de suite ce point-là. Les moments, on va dire, présents dans l'intimité du couple sont assez bien écrits, puisque on sent que c'est malgré tout des personnages qui se connaissent très bien, mais qui se cherchent dans cette nouvelle vie-là, qui vont s'avouer des choses, qui vont en découvrir d'autres l'un sur l'autre. Donc de ce point de vue-là, c'est assez bien écrit, tout en douceur, tout en intimité. Chapeau Tom King pour cette partie-là, qui regroupe effectivement que quelques passages, ça, c'est assez mineur, mais c'est bien écrit pour cela. Maintenant, quand on s'intéresse à la guerre en elle-même, c'est vraiment pas bon, j'ai trouvé. Au-delà de la partie graphique qui elle est irréprochable, puisqu'en fait la guerre des blagues et des énigmes, l'astuce est dans le titre, c'est un affrontement de guérilla urbaine entre le Joker pour les blagues et Edward Nigma le Riddler pour les énigmes. Donc le sujet en fait qui va mener en fait Gotham à sombrer dans l'horreur la plus totale. C'est que chacun veut se prouver à l'autre qu'il est capable de faire tomber le Batman et qu'il est capable en fait de surpasser l'autre, chacun dans son domaine globalement, pour rester assez général. À ceci près que le Joker, que Tom King associe au Joker un détail que moi je trouve encore une fois plutôt très astucieux, qui est que le Joker n'arrive plus à rire. C'est très con et très simple. Mais en même temps très malin, puisque ça va justifier toutes les horreurs que le personnage, le clown prince du crime, va commettre, et des horreurs va rien avoir, puisque cette guerre rangée est assez infecte à suivre. Alors pas dans le sens où c'est pas dans le sens vraiment littéraire et le plaisir de lecture, même si c'est pas très bon, infecte dans le sens où Tom King n'hésite pas à montrer les victimes concrètes de cet affrontement, là où d'habitude quand on voit même No Man's Land où c'était cataclysmique, on avait du mal en fait à ressentir le poids sur les civils malgré tout. Là, c'est pas, enfin, il fait le contre-pied totalement de ça, puisqu'on a carrément des monuments aux morts, des listes des victimes, des gens qui sont assassinés, des gens qui sont victimes de dégâts, de dommages collatéraux, de personnes qui sont abattues froidement par les deux entre guillemets meneurs de gang. Donc, de ce point de vue-là, ça concrétise le récit dans une violence et narrative et graphique totalement assumée et qui paradoxalement ça ancre en fait vraiment le récit dans une certaine réalité, on va dire, quand on voit surtout l'actualité avec le terrorisme latent aujourd'hui et même complètement affiché pour d'autres moments, ça résonne pas mal. Donc ce côté-là, il est super intéressant. L'autre point qui est intéressant, c'est la manière dont il gère le trio Batman Bruce Wayne, le Joker, le Riddler. Je trouve qu'il a vraiment, Tom King a cette science du dialogue minimaliste qu'on lui connaît, et cette science du dialogue parfois qui est complètement déconnectée, mais qui en même temps est le parfait reflet de l'artiste, de ce que l'artiste va dessiner dans ses différentes compositions. Donc ça, encore une fois, il le maîtrise à la perfection et ça marche super bien. Enfin, il y a certains dialogues, notamment ceux du Joker, tout en jeu de mots avec les énigmes du Riddler, où le personnage va en plus briser le quatrième mur parfois. Enfin, d'un point de vue dialoguiste, et la caractéristique du dialoguiste de Tom King, ici, sur cet arc, c'est encore une fois ultra appréciable à lire. Là où ça l'est beaucoup moins, c'est sur l'idée même. Et je trouve ça complètement con que deux personnages qui... alors le Joker, peut-être un peu moins, mais en tout cas le Riddler, dans mon idée à moi, n'a pas vocation à être une sorte de chef de gang criminel et à s'allier à d'autres vilains de Gotham.
Pas tellement, non.
Le Joker, peut-être... un peu plus, maintenant je le vois plus traîner dans les réseaux mafieux, alors peut-être avec Cobblepot notamment, ou le Arnold Wesker, le ventriloque, mais voir le Joker cohabiter et accéder dans son équipe Solomon Grundy, ça n'a pas de sens. Comme d'ailleurs la composition, parce que évidemment ces deux personnages-là vont se créer des équipes qui réunissent donc les différents vilains iconiques de Batman. Donc pourquoi Mr. Freeze est du côté du Joker et pas de Riddler ? On n'en sait rien. D'ailleurs, pourquoi il rejoint un camp ? On n'en sait rien. Je veux dire, pourquoi Man-Bat prend parti ? Qu'est-ce qu'il a à gagner, ce personnage ? L'idée même n'est pas conne, mais l'exécution et la manière dont cette guerre s'articule, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Ça n'a vraiment pas de cohérence. Ajoutons à ça Catman qui vient étoffer un peu le tout. Là, pour le coup, encore une fois, Tom King valorise ce personnage de même plus, c'est même plus du fond de tiroir, quoi. C'est un personnage de la cave, honnêtement. Il lui arrive à lui donner une dramaturgie forte et très, très, très tragique. Je reviendrai pas dessus. Mais encore une fois, c'est un ressort scénaristique pour la fin, puisqu'on se retrouve sur les pages finales à avoir Batman, alors qui est sur un jetpack du Kite Man. Batman n'a pas la capacité de voler avec sa cape.
Bon, sinon, il a peut-être trouvé chez un prêtre.
Sans doute. Bah, apparemment, les prêtres sont bien équipés, il faudra aller se renseigner. Mais encore une fois, t'as Killer Croc qui est attaché au jetpack. Enfin, c'est super con. Vraiment, dans le déroulé de l'intrigue et de cette guerre, c'est vraiment très con. Ça n'a aucune finesse, ça n'a pas de corps, quoi. Alors que quand on se penche sur l'écriture et le talent de narratif qu'a Tom King, de ce point de vue-là, c'est génial. Enfin, c'est vraiment génial. Le type a une manière de réfléchir, a une manière de faire dialoguer ses personnages que tu retrouves vraiment nulle part ailleurs, quoi. Et de ce point de vue-là, cet arc, il est à lire. Par contre, si on est un peu plus intéressé par l'action, l'aventure, le mouvement, et suivre une histoire qui s'écoule plus que réfléchir sur la manière dont sont écrits les personnages, c'est nul, c'est vraiment nul. Et d'ailleurs, le personnage de Catwoman cristallise parfaitement ça dans le dernier numéro et même dans les derniers dialogues, puisque l'une de ses dernières phrases, c'est « on s'en fout ». Puisque déjà, l'acte qu'a commis Batman, pour moi, il est complètement incohérent avec toute la mythologie du personnage, puisqu'on veut nous faire croire qu'il aurait craqué à un moment donné sur son idée de justice sans meurtre. Je vous laisse deviner ce qu'il en est et je vous laisse surtout lire le numéro. Mais Catwoman, elle résume parfaitement notre sentiment qui est on s'en fout de ça. Et Tom King me déçoit pour la première fois. Il avait réussi à écrire l'un de mes numéros favoris de l'année, qui est le Batman 19, qui est, je trouve, un numéro d'anthologie. Et l'arc immédiat qui est suivant, c'est une déception immense et c'est la première déception que j'ai sur Batman depuis très longtemps, quoi. Voilà. Après, pour ce qui est de la suite du cast, Detective Comics est excellent, avec notamment l'arrivée d'un nouveau Batman du futur qui rentre dedans, mais qui à la fois qui est l'incarnation même de tout ce qu'est Batman et les Robins. Il y a un indice là-dedans. Donc Detective Comics, c'est moins indépendant dans le style que Batman, mais c'est vraiment à lire. All-Star, ça se termine un peu la queue entre les jambes. C'est pas très bon, c'est beau, mais c'est pas très bon. Et Nightwing, je l'ai pas lu. Voilà.
Ah oui, non, Detective Comics, là, on est dans une super période. Là. Effectivement, l'arc dont tu parles, Lonely Place of Living, je crois que c'est son nom. Non, Dying.
Dying, Lonely Place of Dying.
C'est un des tout meilleurs, quoi, avec effectivement.
C'est là, un personnage qui arrive du futur,
ouais.
qui est à la fois terrifiant, mais qui est compréhensible. Qui a moins d'impact physique, mais qui compense par son cerveau. Enfin,
c'est grand. Et là, on entre vraiment là du coup avec cet arc dans l'escalade jusqu'à la fin du run de Titan 4. Vraiment où ça va te faire que monter en pression et en puissance. Et ouais, c'est là on arrive dans le bouquet final et vraiment VF est dans les bons moments, quoi. Alors qu'en VO c'est autre chose. Mais bon.
Là, c'est vraiment bon, quoi.
Ouais.
Si je peux me permettre, je vais finir très rapidement sur les kiosques Marvel. Ça me permettra de faire le Comic Stories 14.
Ouais.
Très très rapide. Alors, Avenger.
Ceux qui n'écoutent que à l'audio quand même. Comics Stories Mix MIX. Hein. Ce sont des articles qu'on fait sur le site avec des reviews plus courtes de titres, souvent des kiosques en VF. Voilà. On ne souhaite pas leur consacrer une review complète, mais on souhaite quand même en parler. Donc on les regroupe au sein d'un même article et on fait des reviews très courtes. Et depuis cette rentrée de septembre, on le fait également pour la VO avec des avis express sur plein de lectures. Ça nous permet de zapper un peu d'un titre à l'autre, des titres qui nous plaisent ou alors dont on a vraiment envie de parler parce que c'est n'importe quoi, mais qui ne méritent peut-être pas une review complète. Donc voilà le concept de ces articles. Et du coup, le numéro 14
sera à l'oral. Ouais, donc dans ce numéro 14, je vais parler du Marvel Legacy Avengers 3. Donc première partie sur 4 du tout nouveau crossover qui mélange l'Avengers Verse, on va dire, au sein de No Surrender, donc qui est un crossover qui est chapeauté par Mark Waid, Ali Wing et James Hubb, donc les trois auteurs qui en fait scénarisent chacun une équipe d'Avengers, et qui est dessiné dans son entièreté par Pep Larraz. Donc graphiquement, pour moi, c'est carton plein, c'est magnifique. Pep Larraz fait partie de mes dessinateurs préférés actuellement, et il le démontre encore une fois. Donc artistiquement, c'est au moins à lire. Scénaristiquement, je trouve que Mark Waid, du coup, honnêtement, la franchise Avengers depuis maintenant presque 3 ans, en fait, depuis que Mark Waid a repris, ça vivote un peu. c'est pas très bon, honnêtement, mais c'est pas non plus une purge. Là, je trouve qu'il en oublie un peu les affrontements idéologiques entre les Avengers et les Champions, qui étaient un peu redondants. Quelque chose de beaucoup plus cataclysmique, beaucoup plus, beaucoup moins prise de tête, surtout que là, on sortait d'un arc avec le maître de l'évolution qui était pas terrible. Voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus action, plus impressionnant, avec des destructions, deux équipes qui s'affrontent, la Lethal Legion et le Black Order. Pour ceux qui ont vu Infinity War, ça devrait parler. Au sein d'un jeu entre deux êtres cosmiques beaucoup plus impressionnants, évidemment. Donc voilà, c'est rentre dedans, c'est du pur fun, de la pure action, c'est pas très subtil, mais c'est très beau. Donc je recommande sans forcément vous diriger obligatoirement vers ça. Le kiosque se termine par du Tony Stark, par Bendis, Maliv et Stefano Caselli. Donc moi d'ailleurs, ça fera l'objet d'un édito, je pense, parce que Bendis sur Iron Man, je trouve ça excellent. Au moins bien et par certains moments excellent, notamment cette scène d'intro du numéro, je parle. Avec Fatalis dans un sous-bois latvérien, sans dialogue, sans rien, où on peut presque entendre la neige tomber, qui est une des plus belles introductions que j'ai vues, honnêtement, de toute la série, voire même de tout le kiosque Avengers. Voilà. On suit toujours ce retour de Tony Stark après Civil War 2, qui était, on sait pas trop ce qu'il en est, donc ça va se détailler, se préciser petit à petit, et la situation d'Infamous Iron Man devient de plus en plus critique, de plus en plus intéressante. La quête de rédemption, on s'en rend compte, est totalement impossible et le personnage va se retrouver complètement frustré. Et c'est assez génial à lire, je dois dire. Iron Man par Bendis. On va ensuite passer au Spider-Man 3, Marvel Legacy Spider-Man 3. Alors, étonnement total, puisqu'en fait, c'est une sorte de mensuel complet de transition et de pause, puisqu'il est complètement recentré autour d'une attaque symbiotique par Lee Price, qui était le nouveau porteur du symbiote sur New York, et en fait ça paralyse et ça parasite tout le numéro en entier, c'est-à-dire que tout le Spider-Verse en fait est consacré à cet événement qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, Venom Inc. Donc ça regroupe Amazing Spider-Man, Venom. Voilà, c'est pas génial puisqu'il n'y a pas énormément d'idées, je trouve. Point intéressant, on a vraiment toute la tout l'effet secondaire sur le cerveau que peut avoir le symbiote entre, évidemment, Peter Parker, Eddie Brock et Flash Thompson. Ce sera peut-être le seul bon point que j'y vois, puisque les auteurs se sont même pas cassés les pieds à créer un nouveau personnage pour Flash Thompson, puisqu'il devient l'anti-agent Venom.
Ouais.
Je trouve que l'idée est, même sans être bonne ou pas, est pas très intéressante, pas très pertinente. C'est plus en partie dessiné par Ian Stegman, donc c'est au moins très beau, mais je vois pas trop ce que ça vient faire là, à part dans cette idée marketing d'avoir du symbiote partout. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Honnêtement, le kiosque peut totalement se passer, en fait. Alors ça fait un trou dans la collection, mais d'un point de vue série narrative, on loupe rien. Spectacular Spider-Man, je l'ai pas lu parce que ça m'a saoulé. Je trouve que la série est beaucoup trop irrégulière d'un point de vue qualité. Et Spider-Man tout court par Bendy sur Miles Morales, c'est assez cool puisqu'on a la confrontation de deux Miles Morales avec un membre de sa famille qu'il pensait avoir perdu. Donc ça se finit sur ça. Donc je pense que le numéro suivant sera assez intéressant de ce point de vue-là. Et Bendy sur Spider-Man, c'est moins bon que sur Iron Man, soyons clairs. Ça a beaucoup moins d'impact, il y a eu beaucoup moins de changements, mais ça reste une lecture agréable tous les mois, petite lecture sympa de fin de kiosque. Voilà.
Ok. Le Flash Thompson, ouais, qui devient ça. Ça va continuer. On va le revoir encore durant la fin du run de slot.
Oui, parce que ça sans doute. Alors, je pense honnêtement que c'est une demande du staff plus qu'un chemin créatif que va prendre Dan Slott, mais il est contraint de se mêler de mêler sa série à ça. Alors qu'on était en pleine reconversion de Peter Parker au sein du Daily Bugle. Donc ça fait une coupure étonnante qui englobe tout un mensuel, c'est un peu bizarre. Bon.
Ah bah les interventions de l'éditorial. Hein.
Après c'est pas mauvais, mais vraiment pour les fans hardcore du symbiote, ce que je suis, mais à part ça, honnêtement, c'est pas du tout recommandé.
Ok. Allez, un petit détour du côté de la VO. J'ai quelques trucs quand même qui méritent qu'on en parle, notamment Die Die Die. Non, ça nous fait penser à une chanson d'Enrico Macias, mais pas du tout.
Moi, je pensais à Metallica.
Moi, c'était des références un peu plus de mon âge, peut-être, je ne sais pas. Die Die Die, c'est quoi ? Eh ben, franchement, c'est peut-être la meilleure idée que Kirkman ait eue depuis des années. c'est un titre qui n'était pas annoncé.
Oui.
Et les gens sont arrivés début juillet dans les comic shops et ils ont vu Die Die Die, le numéro 1, Robert Kirkman, Chris Burnham, Scott Gimple, qui a été notamment showrunner sur la série Walking Dead, série télé, et Nathan Fairburn. Voilà, c'est posé là au milieu du comic shop, les gens savaient même pas que ça allait sortir, et tu peux acheter ton Die Die Die. En fait, sinon, il était offert apparemment avec le. Comment s'appelle oh, le gros trou de mémoire, quel con. L'autre série
Oblivion
de.
Song.
Voilà, Oblivion Song numéro 5. C'était en même temps et c'était avec, du coup. Donc tu avais ton Oblivion Song numéro 5 et tu avais ça en plus gratos. Sinon, tu pouvais l'acheter pour 2 $, 3,99 $. Mais personne n'avait été prévenu, ni la presse, ni rien. C'était pas dans le preview. Oh, grosse surprise. Et Kirkman a expliqué qu'en fait, bah maintenant, on est dans un monde de com, on est dans un monde où tout est verrouillé des mois à l'avance. Et où du coup, bah même avant d'avoir lu les numéros, des fois, tu sais ce qui va se passer et tu rentres dans un
C'est
comic
clair.
shop, t'as plus de surprise.
C'est clair.
Et lui, il voulait réinjecter la surprise dans les comic shops. Et du coup, il a fait ça. Il a fait sortir son titre de nulle part, sans com, sans rien et tout ça. Honnêtement, il n'y a que quand tu t'appelles Kirkman que tu peux te permettre de faire ça, hein, de vendre comme ça, juste sur ton nom, un numéro 1 non annoncé, sans com, ni rien. Ouais, bien joué, quoi, brillant. Et du coup, j'ai trouvé l'idée super. Ça a été dur pour moi de me procurer ce numéro, vu que j'achète les choses par correspondante, que j'ai pas de comic shop dans mon secteur, et que Arconia, pour le coup, a un peu merdé. C'est vraiment la première fois que j'ai un petit grief contre Arconia. C'est-à-dire que ce truc était joint avec Oblivion Song numéro 5. Moi, je suis abonné à Oblivion Song chez Arconia, je le reçois tous les mois, etc. Ils m'ont pas mis le Die Die Die. J'ai été obligé de le commander. Mais bien plus tard, quand j'ai découvert que ça existait, etc., et que bah, ça commençait à être un peu galère de le trouver. Donc, bon, voilà, une petite mésaventure personnelle. En attendant, Die Die Die, j'adore ce titre. Ça parle de quoi? Ça parle d'assassins. D'assassins envoyés par des forces politiques pour régler un peu des affaires qui pourraient être gênantes ou quoi. Je vais volontairement pas en dire trop, puisque le concept comme du truc, c'est de mettre la surprise dans les comic shops. Donc je vais pas non plus tout vous dévoiler de l'intrigue. Sachez juste que c'est jouissif. C'est même plus que de la jubilation, c'est jouissif tellement on a dans certaines scènes, une débauche de violence graphique. Ouais, ça en devient jouissif. Et la construction de ce premier épisode, c'est vachement bien fait. C'est très 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 bien fait. On va suivre une scène au début qui se passe sur un champ de course. On comprend pas trop pourquoi ce mec-là fait ça. Et en fait, on va remonter le fil. Et en fait, ce mec-là, bah, le mec qui fait l'action qu'on voit au début du numéro, c'est un tueur qui a été envoyé par quelqu'un de très haut placé politiquement, avec pour objectif de faire tomber un mec politique, pareil, très haut placé, avec de gros trucs de pédophilie contre lui. Des
Tiens.
espèces de révélations de pédophilie qui tombent là sur ce mec-là. Et donc la personne qui veut s'en débarrasser au départ se dit bah on va le tuer, on va le faire tuer, je vais envoyer un tueur à gages, on va le faire tuer. Mais non, le mec il va mourir dans l'anonymat, personne ne saura ce qu'il a fait, c'est pas la bonne solution. Bon, on fait quoi? On le force à se dénoncer? Bah non, le mec il va se trouver dans une prison de haute sécurité, dans un quartier VIP, etc. Il va avoir tout le confort qu'il veut, etc. Et au final, il payera jamais pour ce qu'il a fait. Bon, on fait quoi,
Comment
du
le
coup? On le pousse au suicide? Bah non, il partirait en héros. Et donc, du coup, à chaque fois, ça repousse la chaîne d'un cran. Et au final, on s'aperçoit que l'action que ce tueur a fait, bah, sans tuer personne, il va peut-être réussir à tuer quelqu'un. Par un espèce de jeu de domino qui tombe, qui est assez, assez bluffant.
D'accord.
Et ça, c'est que le premier numéro et j'ai hâte de lire la suite. Alors forcément, sortie surprise, compliqué après de suivre les numéros suivants. Je vais avoir le numéro 2 prochainement. Et ouais, je suis bien pressé, mais en tout cas, c'est vraiment la bonne idée de Robert Kirkman. Et puis série qui commence, série qui se termine. Alors dans un tout autre registre, hein, parce que c'est Royal City.
Oui,
Jeff
exact.
Lemire, le troisième arc vient de se terminer en VO, numéro 14, ça y est, il est sorti. Une couverture qui à elle seule suscite. Un flot d'émotions assez incroyable, rien que cette couverture. Alors, je vous raconte pas ce qui se passe à l'intérieur, ouais, c'est beau. C'est juste beau. Du côté de l'émir, on n'avait peut-être pas lu ça depuis Trillium et Essex County, donc
Oui.
c'est beau. C'est vraiment, c'est touchant, c'est bourré de poésie, de tendresse, d'humanité, juste de l'humanité en fait. Ouais, c'est juste une histoire de personnes normales et humaines, hyper touchantes. Là, pour le coup, les dessins de Jeff Lemire, je suis peut-être un des rares à les apprécier, mais alors là, c'est.
J'ai en vieillissant, si on peut dire,
Tu commences à apprécier.
Alors étonnamment, non. Autant je l'apprécie de plus en plus en tant que scénariste,
oui.
Notamment sur ses séries indé. Je trouve que le type a un talent fou. Mais le dessin, je trouve ça magistral, mais j'ai pas cet effet waouh, tu vois.
D'accord. Bah, sur certains titres, c'est j'aime, j'adore son trait. Sur certains titres, ça me paraît normal, mais il y a quelques titres, Trillium, Essex County, j'en ai parlé, et là maintenant Royal City, où vraiment c'est presque aussi émouvant que le texte. Donc voilà, moi il se passe quelque chose au niveau du trade avec ce mec-là. Beaucoup n'aiment pas, hein. Clairement, je suis pas dans la majorité hein, concernant les dessins de Jeff Lemire, mais alors moi ça me touche.
Moi, je trouve que l'émir sur Moon Knight, c'était magistral aussi.
Ouais, l'émir, c'est un peu un homme en forme hein, depuis quelques années. Et ça commence, ça dure, et c'est bien. L'homme en forme du moment, c'est Donny Cates. Hein. Venom, c'est toujours aussi bon. J'en suis au numéro 5, je crois que le 6 arrive. C'est fort, c'est cette manière de redéfinir complètement Venom avec des concepts de barré, de la folie furieuse dans chaque numéro. Et il est en train de créer quelque chose avec une série de one-shot qui reviennent un peu sur le passé des symbiotes, etc. Donc on a eu, ça s'appelle Web of Venom, c'est dur à dire. Le premier one-shot s'appelait Venom, référence au Vietnam.
Ouais.
Et on en a un autre qui arrive sur Carnage en octobre. Et voilà, ils vont faire, je pense, toute une série comme ça qui seront regroupés après dans un TP. Il y aura 4-5, j'imagine.
Le fan d'Amazing Spider-Man 300 en moi.
Et voilà, et c'est... Ouais, Donny Cates. C'est... Lui aussi, c'est l'homme en forme et il est en train de montrer qu'il est peut-être parmi les futurs grands scénaristes sur lesquels il faudra compter à l'avenir. Mm-hmm. Donc, non, c'est cool. On parlait de Cullen Bunn, tiens, dans le 274.
Oui.
Je te disais, je t'en parlerai plus tard et tout, il fait des trucs en indé super bien. Et ben, des trucs en indé super bien, c'est Bone Parish. Qui est sorti il y a un ou deux mois, le numéro 1, on est au numéro 3 qui vient de sortir. L'idée, c'est quoi? C'est une drogue. Une drogue qui est faite à partir des cendres de morts, de personnes décédées. On récupère les corps, et avec les cendres, on fait une drogue. Et quand on consomme cette drogue, on a des hallucinations tellement fortes que l'on ressent concrètement la vie en fait, de ces personnes. Ça commence notamment dans le premier numéro avec on voit un mec qui est en train de donner un concert devant une salle comble, etc. Genre en mode super rockstar, etc. Et en fait, tu t'aperçois que le mec-là, il est au milieu de la rue tout seul en train de chanter et que tout le monde le regarde super bizarrement et que c'est juste qu'il vient de se faire un shoot, quoi.
D'accord.
Et du coup, c'est cette drogue, du coup, cette nouveauté qu'on a réussi, voilà, on arrive à te mettre dans la peau de la personne que tu consommes, en gros. Donc il y a de vieilles arrière-pensées de Chou et de Tony Chou derrière tout ça. Mais ça va engendrer des choses que on va avoir une guerre aux cadavres, enfin une course aux cadavres, quoi. Celui qui va, enfin vraiment, il va falloir trouver le truc qui va te faire vivre l'expérience de dingue, voilà. Et puis, forcément, c'est intéressant, ça suscite de l'argent, donc ça va déclencher des luttes de pouvoir, parce que c'est une espèce de famille qui contrôle ce truc-là et qui a le secret de la conception de cette drogue. Donc au sein de la famille, on va sentir des espèces de tensions, des luttes de pouvoir, et puis d'autres cartels vont essayer de vouloir mettre la main et de racheter le truc, etc. Enfin, ça mène des jeux de manipulation assez importants, et évidemment, on s'aperçoit que la personne qui a créé cette drogue, elle ne l'a pas créée que pour se faire de l'argent.
Le pitch est cool.
Il y a un motif très personnel et un peu égoïste quelque part hein, derrière la création de ce procédé-là. Et non, c'est du vrai bon indé. Pour le coup, c'est sorti, ça sort chez Boom.
Ok.
Je sais pas si ça sort.
L'idée.
Non, l'idée est sympa.
L'idée motrice est pas mal du tout, je trouve.
C'est très très intéressant. Le numéro 2 nous en apprend un peu plus sur la création de cette drogue, etc. Je pense que ça va pas être très long, hein. Ça va pas forcément durer des années. Mm-hmm, on va peut-être avoir une série en 10-12 parties maximum, je pense. Mais ça peut donner un truc sympa à la fin. Vraiment, un truc un peu autocontenu sympa. Donc Cullen Bunn peut encore faire de bonnes choses. C'est plutôt rassurant.
Oui.
C'est plutôt rassurant. Tu connais Tony Chou, toi, ou pas?
Pas du tout.
Ah, parce que j'en parlais du coup en référence à Bone Parish, et forcément c'est dans l'actualité en ce moment, parce que Rob Guillory, qui était le dessinateur de la série Chou, a lancé son projet, qui s'appelle Farmhand. et c'est dingue. Enfin, c'est aussi fou que Tony Chu. Graphiquement, on reconnaît sa patte, évidemment. Des planches avec des clins d'œil et des blagues dans la moitié des cases, sur des affiches, sur des mugs, sur des posters en arrière-fond d'une pièce. Enfin, voilà, il y a des trucs partout. L'idée, c'est quoi? C'est un fermier qui, un jour, s'aperçoit qu'il peut cultiver des parties de corps humain. C'est juste ça. Le mec, il fait pousser des mains, il fait pousser des yeux, il fait pousser tout, en fait. Et il les met sur des personnes qui en ont besoin. T'as eu un accident, t'as perdu ton nez, il est ravagé, et ça tombe bien, j'ai une fleur qui produit des nez. Et du coup, si je te mets cette fleur sur le nez, tu vas avoir un nez, un vrai nez, quoi. T'as été amputé d'une main, t'as besoin d'une main, attends, j'en ai plein dans mon arbre à main, donc je vais aller cueillir une main, et puis je vais te la mettre, et puis elle va se greffer à toi, à tel point qu'on verra plus la différence entre toi et la main qui t'a été greffée, alors que c'est juste de la culture végétale. Voilà l'idée de cette ferme, un peu spéciale.
C'est bio?
C'est bio, ah bah c'est bio, hein. C'est bio, c'est un peu génétiquement modifié. Il y a un petit côté horreur sous-jacent, pas dégueulasse. Un vrai suspense, un vrai mystère quant à l'origine de ces cultures. Pareil, ça suscite la convoitise parce que forcément c'est un marché très juteux du côté de la santé, etc. Et puis il y a une histoire familiale autour de tout ça, quoi. C'est un fils qui avait perdu complètement contact avec son père pendant des années, qui un jour est invité à la ferme de son père et qui découvre que la ferme de son père, c'est plus la petite ferme artisanale, mais c'est devenu la grosse ferme blindée de systèmes de sécurité, ouverte aux visiteurs comme un parc d'attractions où tu vois des champs de mains, des arbres dans lesquels tu fais pousser des yeux. Enfin bref, c'est ouf. C'est ouf, c'est drôle, graphiquement c'est assez solide et c'est bourré de références, de clins d'œil, notamment à Tony Chu dans le numéro 2. Ça sort chez Image, c'est de Rob Guillory et c'est super sympa aussi, quoi. Il y a de bonnes petites pépites qui sortent en indé là en ce moment, ça fait plaisir. On a eu un petit creux pendant 1 ou 2 ans où il n'y avait plus trop de nouveautés. Alors là, 2018, ça s'est reparti, quoi.
Tant mieux.
Ah ouais, carrément, carrément. Je vous parlerai pas du crossover Archie meets Batman 66 parce que voilà, c'est mon petit bonbon à moi. Et je ne pense pas que ça toucherait beaucoup de personnes, mais c'est du fan service, c'est du fun en barre, quoi. Batman 66 qui débarque à Riverdale, c'est top, c'est top.
C'est un délire.
Oui, c'est un délire. C'est un délire. Ouais, voilà un petit peu, voilà le petit tour des choses intéressantes en ce moment qui moi en tout cas me motive bien. Niveau VO. Donc, pas trop de mainstream au final. Hein. Parce que même chez
Non.
Marvel, ce qui me botte, c'est l'indé, c'est Donny Cates, et des choses comme ça, quoi.
À Donny Cates, ouais, de Donny Cates, toujours et encore, quoi.
Alors, mais ouais, c'est vrai que mes lectures Marvel, Spidey, j'ai testé, c'est pas pour moi, tant pis, j'attendrai un peu, peut-être en TP, je sais pas. Et tous les trucs un peu. Les gros titres Marvel, Avengers, j'ai lâché l'affaire, ça me saoule. Enfin, voilà, je me contente de mes petits Venom, mes petits trucs comme ça qui avancent dans leur coin, et c'est cool. Pareil chez DC, j'en lis un peu plus forcément, parce que voilà, Flash reste cool. Le Justice League Dark de Tynion Four, pourquoi pas une progression vers l'équivalent de ce qu'ils ont pu nous faire sur Detective Comics version Justice League Dark, ça peut. Il y a du potentiel derrière tout ça. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs sympas aussi, mais voilà, plus les choses un peu discrètes dont on parle pas trop.
Bah moi, le Venom de Cates, c'est l'une des séries que j'attends. Alors, on verra, VFVO, je sais pas encore, mais c'est une des séries que j'attends, étant assez fan de tous les délires symbiotiques autour de Spider-Man. Et là.
Non, et puis là, vraiment, il redéfinit beaucoup de choses autour de Venom, autour du symbiote, autour des symbiotes, de la mythologie des symbiotes, de Clintar et tout
Ah,
ça.
voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il reprend tout ça,
Oui, il y a
les
un
Snake
numéro
Knights ou je sais plus quoi là qu'avait
entièrement
fait.
centré sur Clintar et on a même la signification de ce mot.
Cool,
Il nous
parce
révèle
que
une signification de ce mot qui est hyper cohérente.
c'était les Space Knights d'ailleurs, Marvel
Je
Space.
crois qu'il y fait référence. Mais dans le numéro 2 de Venom, il va te citer un épisode du tout début du run de Jason Aaron sur Thor.
Ah ouais, putain.
Voilà, ça c'est des choses qu'on voit plus trop en ce moment. Donc il a été puisé vraiment, voilà, il référence l'univers Marvel récent et
Cool.
ouais,
Parce
ouais.
que autant tous les délires cosmiques du Venom assez récents, bon, j'ai lu ça en demi et avec un œil ouvert, l'autre fermé, mais au moins ça existe.
Oui,
Donc
voilà, il en parle parce
voilà.
que il y a cette origine-là et c'est plus ou moins abordé, mais on est vraiment sur des choses vraiment sur Terre, quoi.
Ok, cool.
Une petite apparition de Miles Morales aussi. Enfin, oui. Il y a des choses cool, quoi. On n'oublie pas le côté. On est dans le côté Venom, on est dans le côté horrifique, etc. Mais on n'oublie pas le lien avec Spider-Man aussi, en faisant apparaître un des Spider-Men, du coup.
Après, la série a pour elle d'avoir Stegman aussi au dessin, quoi.
Non, mais alors, oui, puis il se fait plaisir.
Parce que Stegman, honnêtement, à part sur les tout premiers numéros d'Uncanny Avengers, où j'ai pas compris, le mec, c'est...
Non, là, on est sur le Stegman de Superior Spider-Man, mais,
ouais, voilà, c'est ça,
mais
c'est
version
ça.
horrifique et Venom, et vas-y que je me fais plaisir, et des voilà. Pages... ouais, c'est du gros, c'est du très très lourd aussi graphiquement, donc non, Venom, c'est une des séries solides de Marvel en ce moment, et c'est agréable. J'avais pas lu du Venom depuis des années, et j'aimais pas spécialement ça, alors pour me faire aimer
Bah,
Venom.
moi, depuis Agent Venom.
Pour me faire aimer Venom, il en faut, quoi. Et bah là c'est dans le mille, quoi. Parce que même quelqu'un qui ne. À la rigueur, quelqu'un qui connaît pas trop Venom, qui le lit comme moi, quoi, qui l'a pas lu spécialement beaucoup, parce que c'est pas un des trucs que j'ai le plus lu, loin de là, bah t'es pas paumé, au contraire. On te repart sur des bases où on te réexplique un peu, on te réoriente un peu la mythologie, etc. On n'efface pas ce qui existe, parce que ça existe
Ouais,
toujours,
ça c'est cool
mais
ça.
on te l'explique sous un nouvel angle qui fait qu'on peut l'aborder de manière complètement différente. Ça, vraiment la force de Kate sur ce truc-là. Donc,
D'ailleurs, deux remarques sur Venom. Un, pas de signe de Venom dans Spider-Man PS4. Donc pour l'instant, bon, du moins pour l'instant, il me semble que les communiqués allaient dans une absence du symbiote dans le jeu. Alors je pense que c'est temporaire parce que s'il y a une suite, il faudra forcément nous le mettre
oui.
parce que c'est emblématique. Deuxième remarque, Agent Venom 9 de Rick Remender, qui est sorti il y a quelques années, est toujours l'un de mes numéros préférés avec Casey au dessin qui était incroyable.
Les choses pourraient changer quand tu liras cette série. On arrive pas loin du premier TP en VO. Je pense qu'en VF, ça devrait pas tarder parce que ça va être
Bah,
un
de toute façon,
débat.
en VF, ça arrive avec le Fresh Start, donc c'est février 2019. Hein. Il y
Ça
a un
va être un
kiosque
débat.
dédié.
Et du coup, on arrive à avoir pris un petit retard hein, quand même. Hein. Du coup, je suis pas Nini. Hein. Parce que tu vois,
Bah,
là, on en est quand même. Là, j'ai le numéro 5 dans les mains de Venom, mais je crois que le 6 est en route pour chez moi, ou alors ça va être la semaine prochaine. Mais
donc on va avoir. Après, oui, mais on aura deux numéros de Venom
Ah,
dans
c'est vrai, il y a le
le.
mag. C'est pour ça aussi qu'il y aura le mag. Donc ouais, deux par mois, effectivement, ils vont vite rattraper le train et tant mieux. Tant mieux.
Voilà.
Ouais, voilà un petit peu pour la VO, les choses qui m'enthousiasment en ce moment.
Est-ce que tu as
C'est
sur la pile là, pour conclure?
sur la pile à lire, bah plus rien, figure-toi. Parce que j'ai
Chance.
un gros problème, c'est qu'Arconia ont merdé mes livraisons, et du coup je vais recevoir là l'équivalent de deux semaines de VO, et du coup je vais être un peu noyé sous les titres par contre. Mais du coup ça me permet de lire le Doctor Strange d'un certain Donny Cates.
Ah oui, run très court aussi.
Très court, j'ai le premier TP, j'en suis à la moitié avec Loki en sorcier suprême. Je crois que c'est sorti en VF. Pas encore, ok. Bah c'est sympathique.
Ok.
Voilà, pour le moment, ça me renverse pas la table,
Au
parce que
dessin, c'est
bon.
qui?
J'ai pas le TP sous la main,
Bon,
et
bah,
du coup,
c'est pas très grave.
j'ai pas l'info en tête. Non, je ne me suis pas attaché à ça.
Ok.
Donc du coup, voilà, je vais continuer ça. Je vais continuer. Enfin, je vais essayer de rattraper Duggan sur Infinity War. Enfin, sur la fin des gardiens. D'abord, la fin de ses gardiens, et après je vais voir si je continue.
Ouais.
Et puis bah voilà, j'espère vite quand même recevoir mes petits singles, parce qu'il y a. Il y a quand même quelques pépites en ce moment. Je vais essayer de regarder en direct ce qui m'attend pendant que toi, éventuellement, tu nous parles de voilà.
Oui, alors
C'est quoi
moi
l'avenir
j'ai
pour toi?
vu. Alors bon, évidemment l'avenir, ça va se jouer sur les écrans pour l'instant, particulièrement Spider-Man PS4. Donc je vous referai un papier. Alors j'ai aucune idée de quand. Faudra que je signe le jeu totalement pour être très complet. Alors je vous ferai un papier. Je pense qu'il va plus s'attarder sur le jeu en lui-même et éviter de comparer ça à Arkham Knight ou ce qui s'est fait avant, parce que bon, ça n'a pas lieu d'être. Donc vraiment sur le jeu centré et peut-être plus orienté comics. Voilà. Sinon, d'un point de vue lecture, j'ai du Moon Knight par Bemis, Max Bemis, Déception. Ce sera l'objet de la prochaine critique, je pense, sur le site, qui est une déception. J'ai lu du Bloodshot Salvation, qui là, par contre, est une putain de réussite, parce que c'est relativement excellent. J'ai du Batman Europa en récit complet urbain. Donc,
Ah, j'ai pris ça aussi, ouais.
j'ai feuilleté, ça a l'air vraiment très bizarre. Graphiquement, c'est assez irrégulier. Je suis un peu circonspect sur ce truc-là, mais bon, on verra ce qu'il en est. Et j'ai le Batman à la vie, à la mort à lire, évidemment. Voilà, je tourne sur ça actuellement. Mais le gros focus, là, étant gamer, forcément, c'est du Spider-Man. Enfin, là, on peut vraiment, pour les fans de comics, vraiment, tu peux vraiment conjuguer à la fois comics, Marvel et Spider-Man et jeux vidéo, pardon.
Ouais.
Sachant qu'on n'a toujours pas eu de énième aparté du podcast, on n'a toujours pas eu de nouvelles du Avengers par Square Enix, donc ce sera sans doute le prochain rendez-vous en super-héros manette en main, je pense.
Ouais. Du coup, ça y est, j'ai retrouvé un petit peu ce qui va m'arriver.
Allez.
Bully Wars, la nouvelle série de Scotty Young chez Image. Je me suis dit, allez, je vais tester le numéro 1.
Ouais.
Les nouvelles séries autour du Sandman Universe, ça
Oui.
m'intéresse de voir un peu ce que ça donne du côté de chez Vertigo. Donc le numéro 1 par exemple de Dreaming arrive. J'ai House of Whispers qui arrive aussi prochainement. Donc voilà, je vais voir un peu ce que ça donne. C'est ce genre de truc qui me botte bien. Fantastic Four, après le coup de cœur du numéro 1, j'ai plus que hâte d'avoir le numéro 2 cette semaine. Le Justice League Scott Snyder, j'ai pas arrêté. On arrive au numéro
Ah,
8 ou 9 quand même, et je suis toujours dedans. Donc
la révélation, enfin.
pas mal. Ça renverse pas la table, mais en tout cas, ça suffit à me faire tenir, donc c'est bien. Le Death of Inhumans de Donny Cates, évidemment, du Thanos Legacy qui arrive aussi. Et puis, bah, je me suis fait le petit kiff de la rentrée. Mon petit kiff de la rentrée, c'est d'aller chercher un petit peu chez Arconia bah, les trucs un peu obscurs de Donny Cates. Et du coup, bah, je vais me retrouver avec une. Alors, j'arrive pas évidemment à trouver la liste. Ah, c'est parce que
C'est
c'est
du
dans le.
God Country, du
Alors, du God Country, oui, évidemment. Mais non,
Baby
avec des trucs,
Teeth.
des trucs plus obscurs, hein, du Baby Teeth, voilà, qui vient de sortir chez Snorgle. J'ai réussi à trouver les singles du premier arc, du coup, pour à peu près le même prix. Donc, bah, j'ai préféré prendre les singles. Donc,
Tu
je vais recevoir
m'étonnes.
prochainement. Et puis, Reactor, Ghost Fleet, et Atomawoke.
D'accord.
Voilà, okay, bah vraiment des trucs. Voilà, j'ai tapé Donny Cates dans la barre de recherche, j'ai pioché un peu dans les projets. Donc voilà, je vais me faire une petite période Donny Cates parce que j'ai vraiment envie de lire, de faire un peu le complétiste sur ce mec-là et de vraiment de suivre un peu tout ce qu'il a pu faire et ce qu'il va proposer à l'avenir parce que vraiment c'est un scénariste
Ah, c'est l'un des bons du moment, quoi. Il n'y a
qui
pas
touche
de
un
quoi
peu à tout et
d'autre.
qui, dans tous les styles qu'il touche jusque-là, réussit à mettre dans le mille pour moi. Donc, ouais, j'ai envie de voir vraiment tout ce qu'il a à proposer. Donc, voilà, je me suis fait un petit kiff de rentrée avec une petite sélection avec un peu tout de ce monsieur-là.
Pas en tant que Marvel fanboy complètement subjectif, j'aime bien le fait que cet auteur se retrouve chez Marvel plus que chez la concurrence, mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va faire, la passerelle, forcément, ce qu'il va être capable de faire en face. J'imagine sur des personnages un peu plus auxiliaires, ça peut être intéressant d'observer les choix de carrière que va opérer Donny Cates, puisque c'est le nom aujourd'hui que tout le monde, enfin tout le monde, du moins les lecteurs de comics ont sur les lèvres. Donc on va voir un peu ce que lui en fait de tout ça.
Eh bien écoute, tu sais quoi, on va arrêter de reporter ce projet au mois d'octobre. Une des deux parties de l'émission, on parlera vraiment de ce mec-là, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire, de ce qu'on a lu de lui, de pourquoi on l'aime, pourquoi on trouve que c'est un des futurs grands. Ça sera en plus presque l'arrivée du début du Marvel Knights, voilà. Je pense que ça sera l'occasion ou jamais d'en parler. Et on se posera un petit peu la question sur quoi on aimerait le voir.
Ok, ça marche.
Notamment chez DC, effectivement. Moi, j'ai quelques personnages en tête, notamment du côté du Marais, où je pense que ça pourrait être sympa.
Ah.
Donc, ouais, on parlera de ce monsieur-là le mois prochain. Ça fait quand même 3 mois qu'on dit qu'il faudrait qu'on fasse une émission sur lui. La
C'est
prochaine
vrai.
fois, ce sera sur lui, et ça risque d'être bien sympathique. Bon, bah voilà, pour le programme des choses à venir, du coup, Strangers in Paradise est toujours en attente, hein, sans doute. J'en avais parlé la dernière fois, j'ai pas eu l'occasion encore de l'ouvrir, mais je pense que ça, c'est un truc que je vais m'y mettre un samedi ou un dimanche, une journée où j'ai rien de prévu. C'est une grosse intégrale, je vais la commencer et puis il y a des chances qu'elle soit finie dans la journée. Ouais, j'ai pas
C'est
envie
une
de la
très bonne œuvre.
commencer, j'ai pas envie de la commencer un soir avant de dormir parce que je sens ça a des chances de me happer et ouais, j'ai envie d'avoir la possibilité de tout le faire d'une traite si j'ai envie de le faire d'une traite.
C'est une très bonne idée de programme de week-end.
Hein? Voilà, avec un plaid et un chocolat chaud, n'est-ce pas,
Très bien.
l'hiver?
Ouais. Enfin, moi, j'aime bien aussi avoir une manette entre les mains.
Ouais, bah quand tu lis, c'est moins pratique.
C'est sûr.
Et bien voilà, on va conclure ce programme audio du mois de septembre. On se retrouve du coup en octobre, sans doute avec deux parties, comme on a fait pour ce mois-ci. Du Donny Cates, mais évidemment pas que, puisqu'il y a des trucs au ciné, notamment du côté des symbiotes en octobre, je crois.
Oui, c'est exact. Et j'avais pas du tout pour projet d'y aller, mais bon,
Mais bon.
enfin, voilà, parmi la Rogue Gallery de Spider-Man que je trouve au moins aussi passionnante que celle de Batman, ça tombe bien, ce sont mes deux personnages préférés. Venom est au moins dans les dernières places du classement,
D'accord.
en du bas. Donc il est quasiment tout en haut. Donc j'irai forcément voir ce film Venom avec une certaine appréhension, dirais-on.
Ben oui, forcément, mais les trailers ont l'air plutôt sympathiques. Moi, je dis pourquoi pas, je vais me faire.
Ouais.
Voilà, on verra. De toute façon, wow, ça peut pas être pire que d'autres trucs qu'on a vu récemment.
On va dire ça, ouais.
Et puis j'essaierai peut-être un jour de finir la saison 2 de Luke Cage, mais je pense que je vais caler l'affaire. Parce que
ah, ça, c'est pas une très bonne idée, par contre.
J'y arrive pas. Ça fait 3 mois que c'est sorti, j'ai dû voir 3 épisodes et encore, j'ai pas fini le 3e, je crois. Je peux pas.
Je fais même plus l'effort de m'intéresser à Marvel Netflix parce qu'ils font aucun effort pour m'y intéresser. Donc je...
Ah voilà, Luke Cage, vraiment, c'est la palme du chiant, quoi. Donc moi, j'arrive pas. Et je crois que je vais passer à Iron Fist saison 2 en faisant l'impasse, je crois.
Ouais.
Je peux pas. Voilà. Enfin voilà, allez, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles parties. Et d'ici là, évidemment, bon jeu, puisque a priori vous êtes tous en train de jouer à la console. Et moi, pendant ce temps, je vais me contenter de mes livres.
Tu devrais trouver une PS4 d'occasion.
Oh non, bah, j'en ai une, je l'ai revendue parce que j'y jouais pas. Donc s'il te plaît, pour en racheter une pour un jeu. Même si parfois ça pourrait me chatouiller, mais non, ce n'est pas le moment.
Bien.
Allez, bonne lecture à tout le monde, bon film si vous allez voir Venom, bon courage si vous regardez Luke Cage, et puis à la semaine prochaine, non, au mois prochain, plutôt. À bientôt.
Des bisous partout.
Et bah allez.